court.
Marie Richeux.
La position de la cuillère est le titre de votre nouveau livre, Déborah Lévy, un recueil de textes hybrides où se tiennent chauds des micro-essais, des nouvelles, un abécédaire, des commentaires de textes ou des divagations sur l'époque, une paire de chaussures, une plante, une montre dorée et la mort de votre propre mère. Le titre d'un livre, donc. Mais c'est aussi une position sexuelle où deux amants s'emboîtent comme des petites cuillères rangées collées serrées dans un tiroir. Il y aura, dans ce livre, c'est le pacte dès la couverture, des choses en dessous des mots, les choses dites et les surprises qu'elles réservent, des fantasmes, de l'inconscient, du passé. Ce recueil paraît en avant-première dans sa traduction française aux éditions du Sous-Sol qui publia votre merveilleux triptyque tenant lieu de mémoire ou d'autobiographie en mouvement. Vous vous adressez d'ailleurs à ces lecteurs français qui ont tant aimé vous lire en évoquant les auteurs, souvent les auteurs françaises, qui vous ont tant nourri. Bonsoir Déborah Lévy. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, Déborah. On est ravis de vous recevoir. La position de la cuillère est traduite de l'anglais par Nathalie Azoulay, a donc paru aux éditions du Sous-Sol. Je dis pour les chanceuses anglophones que votre roman Auguste Blue vient de paraître pile au mois de mai en Angleterre, que ça va paraître aux États-Unis et que nous, il faudra qu'on soit un petit peu patient pour vous lire dans ce nouveau roman. Alors, il y a un tout premier texte, mais avant de parler de ce premier texte, Déborah, il y a ce qu'on appelle une dédicace, une adresse, un petit mot qui dit « Me revoilà, mon ami ». Peter, me revoilà mon ami. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée des retrouvailles? C'est pas tout à fait pareil de dire « me voilà mon ami » que de dire « me revoilà mon ami ».
Yes. What? I'm celebrating those friendships.
Oui, je loue, je célèbre toutes ces amitiés qu'on a nouées étant jeunes, à la fin de la vingtaine par exemple, quand on découvre un ami, une amie avec qui on peut parler de n'importe quoi, de tout, de sexualité, de politique, de chapeaux, de savon. On peut commérer, on peut dire du mal des autres, on peut avoir des débats politiques où on n'est pas d'accord. On peut parler de ce qu'on préfère, la douche ou le bain. Où on a des idées très vastes, très ambitieuses, quand on est jeune. On peut parler toute la nuit en buvant du vin. Et Peter, eh ben, c'était un ami comme ça. Donc je voulais célébrer ces belles amitiés-là qui naissent dans la jeunesse. Et ça n'a rien de sexuel, c'est l'amitié entre un homme et une femme. Et toutes les grandes idées qu'on jetait comme des grains de riz ou des confettis dans le vent à l'époque.
Yes, and I wonder if we speak as openly.
Et je me demande si on parle aussi ouvertement et d'une façon aussi amusante et peu sérieuse quand on vieillit. Donc c'est aussi une célébration à la fois de la sagesse et de tout ce qu'il y a d'absurde et d'un peu fou dans notre vie quand on est jeune.
Mais moi, ce qui m'a émue, c'est aussi l'idée du revoilà. Me revoilà. On va se retrouver. On se retrouve. Il y a quelque chose d'une nouvelle fois.
Yes, so I've reunited us in the book.
Oui, je nous ai réunis dans ce livre. En fait, c'était une surprise quand j'ai fait cette dédicace à Peter. Je ne le savais pas avant. Je ne m'y attendais presque pas. Mais je lui ai écrit une lettre à Peter. Et tout à coup, je me suis dit, ben voilà, je peux lui dire coucou, me revoilà, mon vieux copain, au lieu de lui dire au revoir. On peut dire bonjour de nouveau grâce à la littérature.
Cette idée d'adresser des textes à quelqu'un sous la forme d'une lettre, sous la forme d'un texte qu'on envoie vraiment à quelqu'un est présent dans ce livre-là, Déborah Lévy. Par exemple, le livre s'ouvre sur une lettre que vous adressez à votre mère. Alors, pas tout à fait à votre mère, puisque c'est un moment où vous savez qu'elle va mourir. Qu'est-ce que c'est que ce geste-là d'écrire comme une lettre ?
Because letters are so different from email.
Vous savez, la lettre, ça n'a rien à voir avec l'email, le courriel. Pour une lettre, on doit plonger en profondeur en soi-même. Et c'est comme si on engageait une conversation avec la personne à qui on adresse la lettre et avec soi-même aussi. C'est quelque chose de très doux, je trouve, une lettre. Sauf si on est furieux et qu'on a envie d'écrire « J'en ai marre, je te quitte ».
So for my mother,
mais pour cette lettre,
was really, I didn't know whether my mother would live
to read this letter. Je ne savais pas si elle allait vivre assez longtemps pour lire cette lettre. Voilà pourquoi j'y vais très doucement, presque prudemment.
Because she hadn't had a diagnosis.
Et je suis sincère, on n'avait pas encore posé de diagnostic à sa maladie, mais elle était très très malade.
Myself, my brothers and sisters,
et donc moi, mes frères, sœurs,
really what was wrong with her, but we could see that maybe
on ne savait pas de quoi elle souffrait.
She'd stepped through a door that
mais on voyait bien qu'elle avait franchi un seuil, franchi une porte.
Like that.
Qu'elle n'allait pas passer dans l'autre sens. Je peux décrire que comme ça, ce moment. Donc, en fait, moi, je me mettais sur mon 31 pour aller la voir à l'hôpital. Je ne sais même pas pourquoi. Quand j'étais ado, ma mère me disait toujours, mais coiffe-toi les cheveux, il faut te brosser les cheveux plus souvent.
I was very, very smartly dressed, almost as if,
et là, je m'étais habillée, mais vraiment très élégamment, comme si je voulais dire à la mort,
go away,
fous le camp, recule.
And I'd walk like a soldier,
et je marchais comme un soldat, comme un hussard, très vite.
I would walk very fast, clip clop, clip clop.
Je marchais très vite dans les couloirs de l'hôpital.
Hospital wards, and there was my mother, and
je retrouvais ma mère.
So my mother was not a sentimental person, you know.
Ma mère, c'était pas quelqu'un de sentimental.
And I'd say, Mom,
même peu avant sa mort. Et je lui disais, maman, redresse-toi. Et elle se redressait d'un centimètre à peu près, parce qu'elle était attachée à toutes sortes de sondes et de tubes.
Et
moi, je m'asseyais sur son lit, pas sur le fauteuil à côté du lit, sur son lit. Et j'avais l'impression que ce centimètres qu'elle m'avait accordé quand je lui avais demandé de se pousser, eh bien, c'était toute la place qu'elle pouvait m'accorder. C'était merveilleux.
Yeah.
J'ai commencé par dire, Déborah Lévy, qu'avec vous, et peut-être encore plus singulièrement dans ce recueil de textes, on est habitué à ce que les mots, y compris des petits mots comme ça, qui pourraient paraître banals, fais-moi un peu de place, maman, fais-moi un peu de place sur ton lit d'hôpital, les mots disent toujours autre chose, et parfois même plein d'autres choses que ce qu'ils ont l'air de dire. Est-ce que c'est votre rapport avec le langage ?
With as few words
oui,
as possible.
Je crois que c'est bien de s'efforcer d'en dire autant que possible avec aussi peu de mots que possible. Voilà pourquoi j'ai tellement aimé l'écriture de Marguerite Duras. Parce qu'elle avait cette prose dépouillée, très simple, et donc c'était en creux, c'était ce qu'elle ne disait pas avec les mots qu'on entendait, qui était si important.
So she was a writer for me that
à mes yeux,
in a way she got as close to pain.
Marguerite Duras
pain as she could get without dying. So she
arrivait à atteindre un summum de subjectivité aussi loin qu'on puisse aller sans mourir. Donc elle m'a beaucoup inspirée, mais je comprends votre question.
Felt like I could.
Et là, en l'occurrence, ce 1 centimètre qu'elle m'avait accordé me donnait l'impression d'être proche de ma mère. Alors que si je m'étais assise dans le fauteuil, j'aurais eu l'impression d'être en visite.
À plusieurs reprises, la psychanalyse est là, quand parfois, de temps en temps, avec la figure de Sigmund Freud, parfois avec la figure de Jacques Lacan, c'est cette deuxième figure qu'on va écouter dans une archive.
L'inconscient reste le cœur de l'être pour les uns. Et d'autres croiront me suivre à en faire l'autre de la réalité. La seule façon de s'en sortir, c'est de poser qu'il est le réel. Ce qui ne veut dire aucune réalité. Le réel en tant qu'impossible à dire, c'est-à-dire en tant que le réel, c'est l'impossible, tout simplement.
Pour Duras, tout ce que cherche à faire le langage, c'est placarder une catastrophe au beau milieu de la page. Elle pense avec toute la profondeur dont elle est capable pour ne pas mourir de douleur. Car pour Duras, c'est tout ou rien. Elle transfère tout dans le langage. Plus elle en dit, moins elle utilise de mots. Les mots peuvent se réduire à rien. Rien, rien, rien. C'est ce qu'on ne fait pas du langage qui lui donne sa valeur, sa nécessité. Ternir la langue encore et encore produit de l'effet. Tous les écrivains le savent. Tous doivent décider quoi faire de ce savoir. C'est difficile, parfois même absurde, de savoir les choses. Plus difficile encore de les ressentir. C'est ce que Duras passe son temps à nous dire. C'est un extrait de votre recueil « La position de la cuillère » Déborah Lévy. Juste avant, on entendait une archive de Jacques Lacan parler de l'inconscient, parler de l'impossible à dire en nous, ou bien le cœur de l'être, ou bien l'autre de la réalité. Il m'a semblé que ça dialoguait bien avec ce commentaire que vous faites de l'usage du langage par Duras. Est-ce que pour vous, c'est indémêlable votre... rapport à la psychanalyse, quel qu'il soit, et la littérature de Duras et des autres?
Non. They're completely separate.
Non, il s'agit de deux choses complètement séparées.
So you know, I've been reading Lacan for about 30 years.
Je lis Lacan depuis une trentaine d'années maintenant.
I have all his books.
J'ai tous ses ouvrages
that I have to walk,
sur une étagère chez moi.
His shelf in my
et je dois passer devant cette étagère quand je vais dans le couloir pour aller à la salle de bain. Et parfois, quand je prends un bain, eh bien, je m'empare d'un de ses bouquins juste avant d'arriver dans le couloir. Et en 30 ans, je crois que j'ai compris 7 pages de Jacques Lacan. Pourtant, je suis une grande admiratrice. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que je puisse comprendre ce type de pensée aussi complexe de manière immédiate. Ça ne me gêne pas s'il me faut encore 10 ans pour comprendre 3 phrases supplémentaires de
Lacan.
Ce que je retire de Lacan et ce que je prends dans mon écriture, c'est, vous savez, quand vous êtes coincé sur un brouillon, quelque chose que vous essayez d'écrire, le syndrome de la page blanche, vous n'arrivez plus à avancer. Généralement, c'est parce que l'inconscient s'est refermé. Dans les mots de Lacan, quand les lèvres de l'inconscient s'ouvrent, eh bien, quelque chose de très intéressant sort.
So in this sense, I have complete faith with the psychoanalytic.
Et dans ce sens, j'ai une confiance totale dans le projet psychanalytique.
Through my books, I also write about the British writer.
Mais je n'aime pas. Je parle beaucoup de l'écrivain britannique, Ballard. Il y a une citation de Ballard que j'adore. Je l'ai accrochée près de mon bureau, d'ailleurs. Donc, J.G. Ballard. J'essaye de trouver la logique inconsciente à l'œuvre sous la surface et chercher le câblage caché.
Et chaque livre, I think is like that. Looking for the hidden wiring.
Tous les livres sont comme ça. Il s'agit de trouver le câblage caché dans la boîte à fusibles.
Et on sent, Déborah Lévy, que vous êtes autant à la recherche que à la découverte.
Yes.
Vous êtes autant active que curieuse.
As active as you're curious.
Yes. Because I think the writing has to be alive.
The writing has to be l'écriture vital doit être vivante, vitale, et elle doit respirer. Il n'y a rien de pire que de lire une langue morte, des mots qui sont morts. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un sens à ce qu'on écrit. On sait à peu près la direction qu'on prend le lundi. Le mercredi, vous avez changé de direction.
You have a sense of the form. You have a sense of.
Vous sentez la forme, chorale, récit, la voix,
of the emotions,
les émotions
of the
qui seront dépeintes, l'esthétique.
But if there's nothing to find out,
mais s'il n'y a rien à trouver, s'il n'y a pas de quête, quelque chose à découvrir, ça devient ennuyeux très vite.
I mean, it's like life.
C'est comme dans la vie.
Very firm opinions.
Vous savez, les gens qui ont une opinion très tranchée, très arrêtée.
And these opinions never change.
Et immuable.
Which, in a way,
ils n'arriveront jamais à changer. Bon.
But you get the sense.
Okay.
From some writing that nothing has been
mais
listened
dans
to.
Certains livres, on a l'impression que l'écriture n'a rien écouté, qu'il n'y a rien à écouter, que le cœur ne va jamais palpiter.
Vous parlez de beaucoup de textes, Déborah Lévy, dans votre livre, et c'est souvent le cas. Vous parlez, vous écrivez, vous pensez avec les autres. C'est une écriture très généreuse, il me semble, qui distribue beaucoup, qui donne beaucoup envie d'aller lire. Parmi ces autrices et ces auteurs, il y a Simone de Beauvoir. On l'écoute ici dans cette archive.
J'ai voulu parler de moi. Je pensais à ce moment-là faire un livre sur moi pour m'expliquer un peu, savoir qui j'étais, etc. Et je me suis avisée que pour parler de moi, il fallait d'abord que j'explique ce que c'était que d'être une femme. Parce que malgré tout, j'avais toujours vécu assez en égalité avec les hommes, puisque intellectuellement, mes études avaient très bien marché, que les hommes m'avaient traité vraiment tout à fait sur un plan d'égalité. Et tout de même, je me suis dit que ce n'était pas la même chose d'avoir été élevée en fille ou d'avoir été élevée en garçon. Alors ça m'a amenée à étudier un peu le monde tel qu'il est décrit, le monde féminin tel qu'il est décrit par les hommes. C'est-à-dire c'est pour ça que j'ai commencé par les mythes. Alors ça m'a intéressé de voir qu'est-ce que c'était que la femme dans les mythes des hommes. Et puis j'ai pensé que les mythes, il fallait passer des mythes aux raisons qu'il y avait sous ces mythes. Alors c'est pour ça que l'ouvrage a pris de l'ampleur. La physiologie de la femme, et puis son histoire, et puis de là je suis passée alors ensuite à des situations concrètes. Du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai regardé les autres femmes autour de moi. Et je me suis aperçue que finalement ma situation était très exceptionnelle et que j'avais beaucoup de chance. C'est d'ailleurs ça qui me permettait d'écrire ce livre, avec à la fois beaucoup de sérénité, avec beaucoup de détachement, comme si je n'étais ni homme ni femme en quelque sorte, puisque je n'avais jamais souffert vraiment de la condition féminine.
C'est la voix de Simone de Beauvoir dans une archive de 1978. Vous parlez souvent, Déborah Lévy, de ce texte pour le mettre en discussion, pour le penser, pour le mettre en tension. Quand elle dit qu'une manière de rentrer en elle, c'était il fallait en passer par le fait de savoir ce que c'était que d'être une femme. Est-ce que vous êtes passée par un chemin, on va dire, similaire?
That's such an interesting question.
C'est vraiment une question intéressante.
Je
dirais, non, pas consciemment. C'est ma tâche maintenant, désormais, mais je crois que c'est vrai. On prend conscience de ce que c'est. Je n'arrive pas vraiment à le décrire. Je crois que c'est de l'ordre d'une découverte existentielle.
Simone de Beauvoir is the writer I have quoted so often.
De Beauvoir, c'est l'écrivaine que j'ai dû citer le plus dans mes livres, notamment dans Le coût de la vie.
In 1949,
stands. Ce qu'elle a dit en 1949 est toujours vrai.
Kind of less so, but she said, for her generation, men could lead an expanded life.
Pour les femmes de sa génération, les hommes pouvaient aspirer à une vie de transcendance, une vie supérieure.
Oui, and the woman was. To lead a miniature life.
Alors que la femme était réduite à vivre une existence étriquée de vertu, de patience, d'abnégation.
So I worked from Beauvoir.
Donc j'ai travaillé à partir des textes de Beauvoir, dans Le coût de la vie notamment.
I put it in a very particular way. What were the talents?
En ces termes, quels étaient les talents de certaines des femmes de sa génération et d'autres générations? elles ont dû avoir tellement de talent pour étouffer et réprimer leurs propres désirs.
So that's a talent worth losing.
Et ça, c'est un talent que les femmes devraient perdre et devraient être heureuses de perdre.
Yes.
Cette patience infinie. Je suis toujours ravie d'entendre la voix de Simone de Beauvoir. J'adore son chignon.
She told the truth.
Et je crois qu'elle parlait vrai.
And at the time, she was very mocked.
Et à l'époque, on se moquait d'elle.
Because women's experience was not considered,
parce que l'expérience, le vécu des femmes n'était pas considéré comme quelque chose digne d'intérêt dans ce monde.
So, and we see Ernaud kind of worked with that too.
Et d'ailleurs, c'est le même matériau avec lequel Annie Ernaux a travaillé. Il m'a fallu un moment, d'ailleurs, pour rentrer dans les livres d'Annie Ernaux, traduit en anglais. Elle est octogénaire et je ne l'ai lu qu'il y a 3 ans, en fait.
Il y a toute une partie des textes d'Deborah Lévy dans ce recueil qui relève de témoignages de lecture, de pensées avec les livres, et puis il y a aussi de la production de fiction pure. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre admiration pour Gigé Ballard. Il y a plein de moments où la pure imagination débarque et où vous pouvez rejoindre à votre manière Lewis Carroll. Vous me semblez un peu rigide pour une fillette, marmonna le lapin en fumant une autre extra. Comme je vous le répète à longueur de temps et d'extra, c'est à ça qu'elles me servent, l'ailleurs est ma façon à moi de faire l'expérience même de la vie. Alice désigna les petites pattes du lapin. Vous feriez mieux d'enlever vos gants et de toucher le réel. Le lapin cligna des yeux. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle ma maison, en ailleurs. Villa, réel. Le lapin blanc s'allongea et posa sa tête avec l'infini dedans, contre ses pattes gantées. Il cherchait à expliquer à la jeune fille qu'il transportait tout le temps son pays avec lui, si bien que sa tête pesait très lourd, et qu'il s'endormit sans même avoir le temps de se laver les dents. Quand le lapin blanc s'éveilla d'un sommeil sans rêve, il se trouva dans un état d'étonnement et de désolation. Plus étonnant encore, il sentit des larmes ruisseler sur ses joues et mouiller son pelage. Il respira un grand coup et lécha ses gencives douloureuses qui n'allaient vraisemblablement plus soutenir ses dents très longtemps. C'était certain à présent, il lui faudrait adapter son mode de vie à cet infini en lui. Et ce n'était pas tout. Le lapin s'assit et s'efforça de construire un peu plus d'ailleurs. C'était ce qu'il faisait toujours quand il était morose. La nouvelle salle de bal qu'il ajouta à la villa réelle lui parut fragile, pas aussi solide qu'il voudrait. S'il devait tout d'un coup de patte pousser les murs de sa nouvelle extension, tout s'écroulerait. Et pire encore, sans le moindre bruit. Le lapin se mit à broyer du noir et sentit à nouveau monter ses larmes. Des larmes cette fois très puissantes. C'était comme si, de son conduit lacrymal, s'écoulait un fluide très concentré en désespoir et que ce désespoir était un remède homéopathique, une simple larme. Et il pourrait consumer une bonne petite portion de son propre malaise pour combattre le malaise encore plus grand qui menaçait tout son être. Il chercha des yeux un récipient où déverser ses quelques larmes fâcheuses. Son œil rose, le droit, avisa une petite bouteille sur la table avec une étiquette qui disait « Pleurez en moi ». Tout en effectuant cette action stupide, l'œil posé sur le goulot pour que ses larmes goûtent à l'intérieur, le lapin savait que ses larmes étaient un message. Un message dans une bouteille.
I'll send
Déborah Lévy, vous êtes avec nous dans Parler Temps qui court et on évoque votre livre La position de la cuillère. Juste avant Police et Message in a Bottle, on entendait un extrait de votre livre qui réunit, je le disais tout à l'heure, des micro-essais, des nouvelles, des abécédaires, des poèmes, des lettres. Et dans cette petite nouvelle, eh bien, il y a une Alice et il y a un lapin blanc et ils vivent des aventures. Ce qui montre aussi tout votre rapport à la fiction, à l'imagination, même peut-être au monde autre, presque à la science-fiction. C'est une partie intéressante, je trouve, à discuter parce qu'on vous croit toujours une sorte d'écrivaine du réel, mais vous avez aussi beaucoup d'appétit pour ça.
Yes, I write novels.
Oui, d'ailleurs, j'écris des romans.
But you know, with Alice in Wonderland,
mais avec Alice au pays des merveilles, j'ai toujours voulu écrire avec le lapin blanc, sur le lapin blanc. Je le voyais comme une sorte de dandy, avec des gants blancs, un nœud papillon, et puis qui fumait sans cesse. Il fume des cigarettes qui s'appellent Extra. Il fume à la chaîne.
Because the white rabbit wants extra. The white rabbit is very lost in his own fantasy.
Et le lapin blanc est perdu dans son imagination, ses fantasmes, mais le monde réel est très difficile pour lui.
So I reverse the usual because it's the child Alice.
Donc j'ai un peu inversé les rôles. C'est l'enfant Alice qui dit au lapin d'accepter la réalité. Généralement, c'est les parents qui disent à l'enfant : oh, il faut que tu comprennes le monde réel, ce qu'est la réalité. Donc ça, c'était très plaisant pour moi de jouer avec ça.
I'm looking at the white rabbit has all kinds of fantasies about building himself a villa.
Le lapin blanc a plein de rêves, il se cherche une maison, un foyer, donc il veut construire une villa. Et pour tourmenter Alice, qui lui dit mais rentre dans la réalité, il dit à Alice, je vais l'appeler la villa réelle.
She encourages him to take his gloves off.
Alice l'encourage à retirer ses gants blancs.
And to walk into Wonderland.
Et à rentrer dans le pays des
Because
merveilles.
The Wonderland is in his head.
Parce que le pays des merveilles, il est dans la tête du lapin.
Nice thing, you know, to have Wonderland in
Et c'est très sympa d'avoir un pays des merveilles dans sa tête.
And how is she going to get home to her sister? I ask myself.
Mais comment est-ce qu'elle va rentrer chez elle, retrouver sa sœur?
She dives head first into the soil like she's doing a headstand.
Elle enterre sa tête littéralement dans la tête comme si elle faisait un poirier, mais elle met la tête dans la terre, elle vole les chaussures du lapin. Et elle se glisse à travers la terre en portant les chaussures du lapin et elle arrive à retourner en Angleterre où sa sœur lui dit mais où t'étais passée?
There we go.
Et voilà.
Vous écoutez sembler raconter un conte complètement fantastique et fou, Déborah Lévy. Quand on connaît ce que vous écrivez, c'est presque vous écouter, raconter votre littérature, raconter votre vie, raconter ce que vous écrivez et ce qui vous anime. Il y a deux choses que je relève dans ce que vous venez de dire. La notion de home, où c'est chez moi, comment est-ce que je peux retrouver chez moi, et aussi le rapport aux enfants, à ce que les enfants nous enseignent, à la manière dont ils ont parfois de l'avance sur nous, et je pense à tout ce que vous avez écrit sur vos filles. Alors, peut-être sur ces deux notions-là, en quoi est-ce que la notion de home est importante dans ce que vous écrivez comme livre?
It's an all my writing.
Cette notion de home, de la maison perdue, retrouvée, elle court à travers toute mon écriture. La question, c'est où est sa maison? Où est-ce qu'on appartient? Où est-ce que ça se trouve? Est-ce que le foyer, la maison, c'est des briques et du ciment? Je crois que dès qu'on met une nappe sur une table et des chaises autour de la table et un vase avec des fleurs, et qu'on décide, tiens, je veux m'asseoir à côté de cette fenêtre, on commence à dessiner une mini-utopie. Et ça m'intéresse beaucoup. Vous savez, l'utopie, c'est attaché à des choses grandioses, hors de portée. Mais je crois qu'on est tous des concepteurs d'utopie à notre manière et de manière très modeste.
Yeah, and the white rabbit is a a really fun way.
Et avec le lapin blanc, bah, j'ai trouvé que c'était un subterfuge amusant de
green glass wind
d'écrire là-dessus. Il conçoit sa villa avec des petites clochettes qui s'agitent avec le vent.
It's as if he needs
ses cigarettes, les extra,
listen a little more to Alice.
Extra. Alors, il devrait peut-être écouter
which is, I
un
think
peu
your
plus
question.
Alice.
You know, that
je crois
listening
que c'est votre
in.
Question, Marie. But, l'écoute.
We're always asking children to listen.
On ordonne
then
toujours
maybe,
aux enfants
you know, adults
nous
need
écouter,
to listen to.
Nous entendre, mais so peut-être que les adultes aussi doivent pouvoir écouter, doivent entendre.
Right.
J'ai voulu inverser la proposition.
Lorsque vous parlez de la manière de construire à la fois un home et une utopie avec des petites choses, une table, un vase, des fleurs, on pourrait se méprendre et croire, Deborah Lévy, que votre objet n'est que écrire les petites choses de la vie, écrire que les charmantes choses du quotidien. Sauf qu'immédiatement, on voit très bien que ça a une dimension politique très forte. Toujours.
Always. Yes. Yes. I am always writing about how we must not be fixed.
J'écris toujours sur la manière dont on ne doit pas se laisser être prisonnier du carcan du script qu'écrit la société pour nous.
Let me put it another way.
Je vais formuler ça autrement.
Those people who are othered. Who are perceived as others,
les gens qui sont mis à l'écart, qui sont pointés comme étant autres, jouent un grand rôle dans mes livres. Et eux ont tous droit à une chaise autour de la table de mes livres, de ma littérature.
I think this is one of the pleasures of writing,
je crois que c'est un des grands plaisirs de l'écriture. De créer des personnages qui ont du pouvoir, qui ont un statut et qui ont de la valeur parce que l'auteur leur accorde de la valeur, même si eux en sont privés dans leur vie.
Oui, donc c'est
ne le reconnaît pas.
Et
c'est important à mes yeux.
Je pense que vous ne pouvez vraiment juste avoir big existential and political questions.
Je crois qu'on ne peut pas se contenter de poser des grandes questions existentielles, politiques, en littérature. Il faut aussi poser du fromage sur la table et une bouteille de vin. Il faut ouvrir grand les fenêtres. Et après, on peut laisser arriver la mélancolie.
You can have very, different philosophical positions.
Et vous pouvez adopter différentes posture philosophique.
It's important to find the poetry in everyday life.
C'est important de trouver la poésie dans la vie de tous les jours.
It's important to sleep well.
C'est important aussi de bien dormir au quotidien.
Because writing is very hard.
Parce que l'écriture,
you need a lot of stamina,
c'est un exercice difficile. Il faut beaucoup de persévérance pour être écrivain toute sa vie.
Marie was talking to me about how when we talked in the confinement.
Marie, vous me rappeliez quand on avait parlé lors du confinement.
Marie, you were in. You were in the studio here.
Moi, j'étais à Londres et Marie était dans le studio de Radio France. Il était 22h et j'ai dit à Marie que j'étais en train de boire un expresso.
You have to be a real punk.
Et Marie m'a dit, mais il faut être complètement dingue, il faut être punk pour boire un expresso à 10h du soir.
Because you have to write at night.
Mais c'est parce que moi, je dois écrire la nuit.
Confinement. I wanted to write till like 3 or 4
Et pendant le confinement, j'avais envie d'écrire jusqu'à 3-4 heures du matin. Parce que les journées étaient si ennuyeuses, j'avais envie de dormir simplement dans la journée.
Vous écrivez, Deborah Lévy, que vous n'avez aucune morale sur le bonheur. On va écouter Roland Barthes en parler.
La question « Êtes-vous heureux ?» est vraiment la question à laquelle je ne sais jamais répondre. S'il fallait répondre vite, je dirais « je suis heureux », mais en même temps, j'ai toujours été angoissé. J'ai été à la fois heureux et angoissé. Ça ne me paraît pas forcément contradictoire. Dans mon enfance, ce double sentiment se manifestait par le fait que j'avais, disons, un entour. Je ne dis pas un entourage, qui est un mot trop vaste et trop vague en même temps. J'avais un entour affectif qui me procurait le plus grand comblement, mais en même temps, bien sûr, j'étais seul en tant qu'enfant de mon âge. Des amis, je n'en avais véritablement qu'au lycée, et dans le foyer, dans le ménage, effectivement, j'étais seul, et donc, sans doute pour cette raison, j'ai très vite pris l'habitude de m'intérioriser, pas mal. J'ai donc beaucoup lu, ça a été vraiment l'une des grandes occupations de mon adolescence, de lire. Je dirais que je n'ai jamais tant lu que pendant que j'étais jeune, et plus j'ai avancé en âge, moins j'ai lu. C'est ça l'ironie. C'est que maintenant où je suis censé être une sorte de spécialiste de la lecture, de la critique, du livre, c'est le moment, au fond, où je ne lis presque plus.
On est en 1967 et c'est la voix de Roland Barthes qui part de sa définition du bonheur, toujours lié à l'angoisse, jusqu'au constat de ne plus lire assez, Déborah Lévy. Vous écrivez souvent que vous n'avez pas de morale vis-à-vis du bonheur. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à la question « Êtes-vous heureuse ?»
I mean, there's so much pressure to be happy.
On nous met tellement la pression pour qu'on soit heureux. Je crois que je ne sais plus ce que ça veut dire.
We know what it means to be really unhappy.
Bon, on sait ce que c'est que de se sentir très malheureux. Et la définition du bonheur.
Only think positive thoughts. Well, that's
bon,
a stupid thing.
N'avoir que des pensées positives.
What are we going to do then?
Moi, je trouve que c'est un peu idiot parce que
negative thoughts.
Qu'est-ce qu'on va faire des pensées négatives?
We're going to do a lot with them as writers.
On peut en faire beaucoup en tant qu'écrivain.
And they are very powerful for all of us. So the idea
that
you have avocado smoothies and you only think happy thoughts.
Mais l'idée que vous n'ayez que des pensées positives, que vous soyez complètement équilibré, pas un accro, rien, ciel bleu tout le temps. Bon, j'ai des doutes.
What but says stands? I think happiness and anxiety are like lovers.
L'anxiété, c'est comme un couple d'amants.
Oui. So Bart was such an influence on me as
Barthes
a writer.
M'a tellement influencé et a tellement influencé mon écriture.
As a behavior.
Parce que il décrivait l'écriture comme un comportement, le langage comme un comportement. Comment se comporte le langage? Comment se comportent les mots?
Not a single book I write where I don't ask myself that question.
Et dans tout ce que j'écris, je me pose systématiquement la question. Comment est-ce que cette langue se comporte?
Sometimes happily.
Parfois, elle se comporte de façon joyeuse. Et d'autres
but
fois,
Freud,
non.
we give him his due. He had a good sentence on happiness.
A écrit des
he said his job
sur le bonheur.
Was
il a dit
not
que son
to make us happy,
n'était pas de nous rendre heureux,
but to turn misery into ordinary, everyday
mais de faire de notre malheur ou de notre malheur profond des petites misères au quotidien supportables.
À chaque fois que vous terminez une phrase, Déborah Lévy, je ris ou je souris. Et c'est pareil quand je vous lis. Et je ne crois pas que c'est uniquement parce que vous êtes drôle. Je pense que c'est pour une autre raison. C'est pour... c'est pourquoi alors? Alors, c'est pourquoi? Pourquoi je ris alors?
Well, you're going to have to tell me.
Mais c'est à vous de me dire, Marie.
Parce que vous semblez être d'accord pour vous surprendre
because
vous-même.
You seem to agree to surprise yourself.
Yeah, well, you have to keep alive and interested.
Oui, je crois qu'il faut rester vivant, il faut continuer d'être curieux.
Yeah, I think this is sort of true, Marie, actually.
Mais je crois que c'est vrai ce que it's vous like, dites, Marie, en fait.
It would be so boring to come in.
Ce serait tellement ennuyeux.
And know exactly what
si
I was
je
going
débarquais
to say.
En sachant exactement ce que j'allais dire dans notre échange.
So, I am often surprised by a thought.
Donc c'est vrai que quelquefois je me laisse surprendre par une pensée qui me vient ou une pensée que vous exprimez et je me laisse surprendre. Je crois que c'est l'écrivain en moi. Mais c'est une technique en même temps qu'être une sensibilité, je crois.
La position de la cuillère, c'est le titre de ce livre qui paraît aux éditions du Sous-sol, Déborah Lévy. On peut relire toute la trilogie qui est aussi parue aux éditions du Sous-sol. Et si on lit l'anglais, on peut lire Auguste Blue en attendant de pouvoir le lire en français. Ici, vous êtes traduite par Nathalie Azoulay et vous étiez interprétée par Eve Dair. Merci Eve. Merci beaucoup Déborah Lévy.
Merci.
Ce soir, c'était Olivia Arnay à la réalisation, Félix Levachien. Un grand merci à toute l'équipe de Par les temps qui courent, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Camille Petiot et Jeanne Aléos. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram de l'émission animée par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
Shall I go or shall I stay?